Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. Une émission préparée ce matin par Samuel Bernard, mais aussi Tiffaine de Rocchini, Clément Salazar, Juliette Gadeau, réalisée ce matin par Charlotte Roux et mise en onde par Élise Leu. Toute cette semaine dans Culture Monde, nous allons nous intéresser aux avancées et aux reculs territoriaux des organisations djihadistes. Mardi, nous irons en Afrique de l'Ouest, au Nigeria, pour parler de Boko Haram. Mercredi, nous prospecterons en Libye, où depuis l'arrivée fulgurante de l'organisation de l'État islamique il y a plus d'un an, en recul certain depuis mars, la situation semble se transformer au profit d'une galaxie de milices fondamentalistes. Jeudi, enfin, Al-Qaïda, qui depuis la création de Daesh semblait avoir disparu des radars, surtout des radars médiatiques, mais qui revient sur le devant de la scène, notamment du côté de l'Irak et de la Syrie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'Afghanistan, mais aussi au Pakistan, où les talibans reviennent en force malgré l'assassinat en mai dernier de leur leader, Akhtar Mansour. Afghanistan, Pakistan, le retour des talibans.
La situation à Kunduz est très critique. Toutes les routes du district sont bloquées. Les gens se font tuer. Mais le gouvernement n'en a rien à faire.
L'Afghanistan ne sera pas une priorité. J'espère qu'il sera prouvé que le consensus en Afghanistan est sans précédent. Pourquoi y a-t-il un consensus ? Parce que nous faisons notre part du travail et que le problème n'est pas confiné. Ce n'est pas une guerre civile. Les réseaux du terrorisme international et les soutiens qu'ils reçoivent supposent une coopération internationale, parce que la guerre est à la fois régionale et mondiale.
En tant que président, je ne laisserai pas l'Afghanistan être utilisé comme un repère pour terroristes, pour attaquer encore notre nation, dit-il. Les missions restreintes qui sont assignées à nos forces ne vont pas changer. Elles resteront centrées sur le soutien des forces afghanes et la lutte contre les terroristes.
Malgré les déclarations de Barack Obama, les terroristes d'Afghanistan continuent de semer la mort. Quant à la coopération internationale évoquée par Ashraf Ghani en juillet dernier, elle n'est toujours pas en capacité d'organiser des discussions permettant de ramener la paix. Ces dernières semaines, ces derniers mois, les attentats se sont multipliés. Vendredi dernier, un kamikaze a déclenché une charge explosive devant une mosquée dans une zone du nord-ouest du Pakistan, tuant 36 personnes. En Afghanistan, cette fois à Kaboul, sont plus de 40 personnes qui sont mortes dans une série d'attentats dans la nuit du 5 au 6 septembre. Fin août, c'est une université à Kaboul qui a été attaquée, faisant 13 morts. 53 blessés. Quelques jours plus tôt, un hôtel de Kaboul. Fin juillet, un attentat encore fauché 80 personnes dans la capitale à l'occasion d'une manifestation pacifique de la minorité afghane, d'une minorité afghane, l'un des attentats les plus meurtriers depuis la chute du régime taliban en 2001. Outre les attentats, les djihadistes parviennent également à conquérir des territoires autour de Talinkot, chef-lieu de la province d'Uruzgan au sud, mais aussi dans le Helmand, autour de Lashgarga. Au printemps dernier, les insurgés avaient lancé une opération contre Kunduz, cette ville qu'ils avaient déjà conquise temporairement en septembre 2015, avant de la perdre suite à la contre-offensive de l'armée afghane soutenue par les forces spéciales de l'OTAN et les frappes aériennes. Depuis le départ de l'essentiel des forces occidentales, les forces afghanes peinent à contenir les assauts des talibans dont le retour semble de plus en plus inéluctable, d'autant que les autorités doivent également faire face à l'essor de Daesh. Face au spectre d'un retour des talibans, Ashraf Ghani, le président, avait déjà tenté un rapprochement avec son frère ennemi, le Pakistan, sans parvenir à mettre en place un processus de négociation susceptible de ramener la paix. Côté pakistanais, cette fois, le premier ministre, Nawaz Sharif, a mis en place un plan d'action national affichant l'ambition d'éradiquer les groupes religieux violents impliqués dans le pays. Mais pour quel résultat ? Islamabad a-t-il réellement le désir, mais aussi peut-être les moyens militaires et politiques de mener cette guerre contre les talibans ? Par ailleurs, qui sont ces talibans ? Est-ce qu'il s'agit d'un mouvement parfaitement uni, cohérent, ou au contraire, est-ce qu'il est composé de courants divers avec des agendas divergents ? Et comment l'essor aussi de Daesh a-t-il bouleversé de ses équilibres ? Voilà un certain nombre de questions auxquelles nous allons nous intéresser ce matin avec un invité, Georges Lefeuvre. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes anthropologue, vous êtes un des grands spécialistes, pour pas dire le grand spécialiste de cette zone frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. D'abord un mot sur l'actualité, Georges Lefeuvre. Vous avez entendu vendredi dernier cet attentat kamikaze déclenché dans le nord-ouest du pays qui a tué 36 personnes. Un attentat qui s'est déroulé dans le district tribal de Momand. donc, qui est une zone frontalière de l'Afghanistan, où l'armée d'ailleurs afghane combat en ce moment même les talibans. C'est une nouvelle illustration de leur retour meurtrier, Georges Lefebvre. Pas de doute que ce sont les talibans derrière cet attentat ?
Ça ne fait absolument aucun doute. Et si c'est dans le Mormande, c'est pas l'armée afghane, mais l'armée pakistanaise qui est là. Mais ça veut dire une remontée en puissance de ce qu'on appelle le TTP, Tehrik-i-Taliban Pakistan, qui est le mouvement des talibans pakistanais et qui est beaucoup plus radical que ne l'était jusqu'à présent. Mais on va revenir là-dessus. Les talibans afghans.
Je voudrais qu'on fasse peut-être un état des lieux de la situation aujourd'hui, voir au niveau du territoire, où est-ce qu'on en est. Je le disais l'année dernière, les talibans s'étaient emparés de cette grande ville de Kunduz. Ils avaient pris les forces afghanes de court. C'était une victoire très importante, en tout cas symbolique, même si je le disais quelques jours après, ils avaient dû quitter la ville sous les frappes des forces de l'OTAN. On s'en souvient aussi qu'il avait d'ailleurs coûté la vie à ces 42 personnes qui étaient abritées dans l'hôpital de Médecins sans frontières. Mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut dresser une sorte de carte des régions, des territoires qu'ils contrôlent aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. J'ai refait un petit pointage avant de venir vous voir. Alors d'abord, il faut savoir que la prise de Kunduz l'an dernier avait surpris la plupart des experts, alors que ce n'était pas du tout surprenant. Ça fait extrêmement longtemps que nos soldats étaient basés à Kapisa. On savait très bien qu'il y avait des offensives venues du Pakistan, d'ailleurs, et qui passaient par Kapisa, qui était le court-circuit pour éviter Kaboul, et faire la jonction avec Kunduz par la province de Bahlan, qui d'ailleurs aujourd'hui est aussi en difficulté. Pourquoi Kunduz ? Parce qu'à Kunduz, il y a une très forte population pachtoune qui est installée là comme des colonies de peuplement depuis la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Donc les talibans étaient bel et bien attendus là, contrairement à ce que disaient les experts. Deuxième chose, Kunduz a été libéré 8 ou 10 jours après. C'était il y a exactement un an. Mais c'est un petit peu une victoire à la Pyrrhus, parce que tous les districts autour de Kunduz sont presque tous entre les mains des talibans. Et le gouverneur de Kunduz lui-même disait en mai dernier « ma ville est assiégée ». Et une chose étonnante aussi, on parle de l'état des lieux. Les Pachtounes sont tout à fait chez eux dans le sud, dans Kandahar, vous l'avez signalé, dans le Helmand, vous l'avez signalé, dans le Oruzgan, qui est la province d'origine de Mullah Omar, donc c'est un symbole très très fort. Mais curieusement, c'est pas dans le sud qu'ils ont fait les plus grandes avancées territoriales, même si Lashkarga, vous l'avez dit, est sur le point de tomber, même si Tarin Kot est presque tombé. Mais depuis le mois de septembre dernier, depuis la prise de Kunduz, sur les 30 districts qui ont été pris par les talibans, il y en a plus de 15 qui ont été pris dans le nord. Dans le nord qu'on croit toujours exempt de talibanisme. C'est-à-dire que Kunduz, c'est aussi le Badakhchan, qui est quand même le fief des Tadjiks de Jamiat et Islami, voilà. Et sur toute la frontière du Tadjikistan et Kunduz. Pour un résultat aujourd'hui, pour faire rapide sur la carte, le résultat aujourd'hui, c'est que l'on compte 55 à 60 districts qui sont entièrement gérés par les talibans sur un total de 365 districts dans le pays. Donc près de 60 districts sont gérés par les talibans et une trentaine sont contestés, c'est-à-dire tantôt pris par les talibans, tantôt repris par les forces nationales afghanes, ce qui est le cas actuellement de Lashkarga, que vous avez cité, dans le sud, dans le Helmand, et de Tarin Kot, dans la région de Ruzgan.
Selon un rapport de l'inspecteur général pour la reconstruction de l'Afghanistan, fin mai, 65,6% du territoire afghan était sous le contrôle des talibans. Aujourd'hui, c'est 70%, pardon, des autorités afghanes, aujourd'hui, 70%. Ça veut dire clairement que la dynamique est du côté des talibans.
Et partout dans le pays.
Et partout dans le pays.
Le nord, le sud, mais également l'est et l'ouest.
Et Georges Lefebvre, que peuvent les autorités afghanes et que peut aussi l'armée américaine ? On a entendu en juin dernier Barack Obama qui annonçait le renforcement de l'engagement américain auprès des forces afghanes, leur permettant visiblement de s'attaquer plus directement aux forces talibanes. Est-ce que concrètement, ça a changé quelque chose sur le terrain ?
Non, pas vraiment, parce que si les Américains ont laissé des troupes sur place, il ne s'agit pas actuellement de renforcer la présence américaine, il s'agit simplement de ralentir la diminution du nombre. Mais on tourne sur 4-5 000 soldats américains, et on est évidemment très loin du pic qui, en 2006 ou 2007, nous conduisait à 150 000 personnes. Donc les militaires américains sont là officiellement pour achever le travail de formation de l'armée nationale afghane. Il est quand même prévu dans le traité qui justifie leur présence dans le pays qu'ils peuvent de temps en temps intervenir en couverture aérienne, et c'est ce qu'ils font beaucoup plus que prévu, mais les couvertures aériennes ne donnent pas beaucoup de résultats.
Bah, il y a quand même des résultats, Georges Lefebvre, écoutez.
Cela fait longtemps que nous discutons avec le Pakistan et l'Afghanistan à propos de cet objectif concernant Mullah Mansour. et les chefs d'État des deux pays ont été informés de la frappe. Mullah Mansour a été activement impliqué dans la planification d'attaques à Kaboul et à travers l'Afghanistan, représentant une menace pour les civils afghans et les forces de la coalition présente.
Voilà, le Mullah Mansour, c'est pas rien du tout. Akhtar Mansour, qui a été tué lors de frappes de drones américains, on est au sud-ouest du Pakistan voisin. Mansour, c'était le successeur du leader historique, rappelons-le, le Mullah Omar, dont la mort avait été confirmée l'année dernière. Les talibans ont donc perdu deux chefs, coup sur coup, en quelques mois d'intervalle. Ça veut quand même dire que la stratégie américaine de lutte contre les talibans de Washington est assez efficace.
Oui, non, quand je disais que les opérations militaires ne donnaient pas de grands résultats sur le terrain, je voulais parler des opérations aériennes pour aider l'armée nationale afghane lorsqu'elle est au combat sur le terrain avec des troupes talibanes. Dans le cas de Akhtar Mansour, le remplaçant en effet de Mullah Omar, c'est tout à fait différent. C'est un drone qui l'a identifié, qui lui a lancé une roquette sur la Jeep dans laquelle il se déplaçait dans le désert du Béloutchistan. C'est d'ailleurs la première fois qu'une opération se fait comme ça dans le Béloutchistan. Donc là, c'est tout à fait différent. Il y a deux sortes d'opérations. Il y a les couvertures aériennes pour couvrir les opérations militaires des troupes au sol, et puis les trucs très ponctuels comme ça pour tuer des chefs talibans. Maintenant,
quel était le message, pardon, des États-Unis à travers l'assassinat donc de Mansour? Est-ce que c'était adressé directement aux talibans? C'est pour leur dire, voilà, on peut frapper, on peut éliminer la tête de votre organisation, on a la capacité de le faire? Ou est-ce que c'était peut-être un message envoyé, je pense, au hasard, au Pakistan voisin? Mansour, je crois, était un homme relativement opposé aux négociations, aux pourparlers. Est-ce que c'est aussi un message envoyé au Pakistan pour dire, voilà, il faut aller à la table de négociation, Mansour s'y refusait, nous avons tué Mansour?
C'est un message, en effet, qui a été assez contre-productif, on va voir pourquoi, parce que le remplaçant de Mansour, Akhundzada, est beaucoup plus œcuménique que ne l'était Mansour lui-même. Mais c'est également une manière de montrer au monde que, en effet, le chef des talibans se promène librement au Pakistan avec un visa pakistanais, et qui plus est, il revenait d'Iran. Ça veut dire aussi que quand il veut aller en Afghanistan, il peut passer par le sud, par Baloutchistan, et passer par l'Iran. Ça remettait en cause autant l'Iran que le Pakistan, et le Pakistan que l'Iran. Montrer qu'il y avait une espèce de libre circulation du plus grand chef des talibans, pratiquement incognito, dans un pick-up 4x4 dans le désert.
Ouais. Alors, quelques heures après, on a donc la nomination de cet homme, Aïbatullah Akhundzada, fils de théologien, originaire donc de Kandahar, donc le cœur du pays pachtoun. Que vous semble révéler, Georges Lefeuvre, cette nomination et qu'est-ce qu'elle dit en particulier, peut-être sur les divisions internes au mouvement taliban, qui n'est peut-être pas aussi monolithique qu'on pourrait le penser parfois?
C'est extrêmement important de parler en effet d'Akhundzada. Je vais essayer de ne pas être très long, mais il faut un tout petit peu rentrer dans le détail quand même. Lorsque Nawaz Sharif, je ne vais pas remonter jusque-là, lorsqu'en juillet 2015, on était proche de réunir des talibans, lesquels, c'était difficile de savoir lesquels, autour d'une table de négociation à Murree, à côté d'Islamabad. Certains talibans, qui n'avaient pas envie que ces négociations soient engagées, ont révélé à ce moment-là que Mullah Omar était mort depuis 2 ans. Cette annonce de la mort de Mullah Omar a mis un grand nombre de talibans en colère et ils ont fait sécession du mouvement général. On a vu en effet le mouvement taliban éclater en factions et certains même venir alimenter les nouveaux foyers de Daesh qui étaient en train de s'installer dans la région du Nangarhar, c'est-à-dire dans l'est de l'Afghanistan, et dans les zones tribales à forte population chiite que l'on pouvait combattre d'ailleurs au Pakistan, c'est-à-dire à Kuram, Mormand, etc. Donc ça avait porté un mauvais coup aux talibans. Maintenant, quand Mansour meurt, la plupart des experts disent le remplaçant sera Haqqani, le fameux réseau Haqqani. J'ai eu l'occasion, différentes tribunes, de dire non, ce ne sera pas Haqqani, parce que Haqqani était une sorte de navette, de va-et-vient entre les talibans historiques de Mullah Omar et les talibans pakistanais qui sont beaucoup plus radicaux. Il n'empêche que par rapport à l'organisation talibane, Haqqani était un exogène. Et j'avais à l'époque annoncé, j'étais un des rares, le nom de Akhundzada.
Que personne ne connaissait à l'époque.
Pratiquement personne ne connaissait. Moi, je savais de qui il s'agissait, et Akhundzada était celui qui pouvait renforcer le mouvement taliban. Comment? Akhundzada, c'est un théologien connu et reconnu, de l'islam obscurantiste, certes, mais c'est un moulah et c'est un théologien. C'est donc un vrai, enlem, docteur de la loi. ce qui redonne la dimension aux talibans, leur dimension religieuse d'origine. N'oublions pas que Taleb veut dire l'étudiant en théologie. Donc on va redorer le mouvement taliban de sa valeur religieuse. Et Ahrounzada est nommé chef. Et c'est lui, donc, qui est, je dirais, le goupillon dans l'affaire. Vous allez voir pourquoi je vous parle de goupillon. Mais Haqqani, qui était présumé le chef, non, il est devenu le numéro 2. Et Haqqani, c'est un Afghan, lui aussi, mais qui s'est taillé un petit émirat, un petit empire, à cheval sur la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan, qui est donc afghano-pakistanais, et qui est surtout un spécialiste des opérations coup de poing, pour ne pas dire des opérations terroristes. Lui est devenu le numéro 2, c'est donc la dimension militaire, c'est le glaive. Et le numéro 3 du nouveau mouvement, c'est Yacoub, le fils aîné de Mullah Omar, et lui, il assure la légitimité du mouvement. On a exactement les trois fonctions qu'un de nos grands chercheurs français, Georges Dumézil, décrivait pour expliquer comment les sociétés indo-européennes et l'Afghanistan, une société indo-européenne, fonctionnaient depuis l'Inde ancienne jusqu'à Napoléon et la Révolution, jusqu'à la Révolution chez nous.
Donc le goupillon, le glaive.
Les trois fonctions, c'est la légitimité, le sceptre, c'est le goupillon et c'est le glaive. Les talibans ont eu cette intelligence de mettre Ahrounzada le cléric, le curé, si je puis dire, et grand théologien, de mettre Haqqani, fort de ses succès militaires, c'est le glaive, et de donner la légitimité au fils, qui est le numéro 3, et c'est le sceptre.
Alors Georges Lefeuvre, est-ce que le goupillon, c'est-à-dire Ahrounzada, c'est-à-dire le nouveau chef des talibans, a la capacité de maintenir l'unité des talibans ?
Non seulement il maintient l'unité des talibans, mais comme cette composition des trois fonctions parle très bien à la psyché afghane, toutes les factions éclatées, depuis 2015, c'est-à-dire depuis l'annonce de Mullah Omar, je me répète, qui avait mis en colère tant de gens, tout cela revient dans le giron des talibans officiels, si je puis dire. Presque toutes les factions l'ont rejoint. Il ne reste plus actuellement que Rasoul, qui est assez important dans l'est du pays, qui n'a pas rejoint, mais il est très ami avec Yacoub, il reviendra. Et surtout, l'arrivée de Ahrounzada a permis de vider en grande partie les poches de Daesh qui s'étaient installées en effet en 2015.
Alors on va revenir évidemment sur l'émergence de Daesh, mais est-ce que Ahrounzada est disposé à discuter ?
Non.
Non.
Non. Ahrounzada n'est pas disposé à négocier quoi que ce soit, et comme il avait été ministre de la Justice dans le gouvernement taliban de 1996 à 2001, on s'aperçoit que les premières opérations terroristes dès la nomination d'Ahrounzada, c'est le ministère de la Justice, ce sont des convois de fonctionnaires du ministère de la Justice qui se déplacent dans Kaboul. Il a visé, en effet, toute la justice civile. Il n'est pas prêt à négocier. Et c'est bien pour ça que Ashraf Ghani, le président afghan, a essayé de prendre quelqu'un avec lui, quand même, qui est le chef du Hezb islamique, qui n'est pas un taliban, mais qui est un fondamentaliste musulman et un dissident depuis longtemps, en la personne d'Ekmatyar. Et que malheureusement, il a échoué.
Alors, on va revenir sur l'ancien cycle de négociations. Retour 2 ans en arrière.
That is where the problem is. You cannot have a good snake and a bad snake.
Voilà le problème. Vous ne pouvez pas avoir un bon serpent et un mauvais serpent. Vous ne pouvez pas former un serpent. Ils ne développent pas d'affection d'aucune sorte. Ils peuvent revenir et mordre n'importe qui. Leur formateur ou une autre personne. Par conséquent, dire que ceux qui ne blessent pas le Pakistan devraient être autorisés à blesser ailleurs est une remarque très malheureuse, qui est la source du problème. Je souhaite que l'Afghanistan et le Pakistan changent cette manière de penser, cette approche, et nous pourrions commencer à voir l'extrémisme et le terrorisme comme un danger au Pakistan et pour les êtres humains de toute cette région. Donc nous pourrions travailler ensemble pour nous libérer de ces actions ratées.
Voilà, l'ancien président Hamid Karzai, le bon serpent, le mauvais serpent, il va falloir un peu s'y retrouver et lire entre les lignes. On est en novembre 2014, il espère que l'Afghanistan va se rapprocher du voisin pakistanais pour construire la paix. C'est son prédécesseur qui va lancer l'initiative. Le président afghan, ensuite, donc Ashraf Ghani, va tenter de convaincre le Pakistan de s'engager dans un processus de négociation avec les talibans. Ça aboutit à un cycle de négociations, Georges Lefeuvre, qui se tient l'année dernière, juillet 2015, au Pakistan. On a là les autorités pakistanaises, afghanes, bien sûr, la Chine et les États-Unis. Et puis finalement, cette tentative, elle échoue et on abandonne les discussions. Pourquoi finalement cet échec ? Qui en porte la responsabilité ? Il y a bien sûr la mort du Mollah Omar, mais est-ce que ça suffit à expliquer l'échec de ces négociations ?
Non, bien sûr, ça ne suffit pas. Dans cette comparaison du mauvais serpent et du bon serpent qui vient d'être faite, c'est une référence évidemment aux Pakistanais que l'on accuse de distinguer les bons talibans des mauvais talibans. Ouais. Et je suis obligé un petit peu de revenir là-dessus pour que l'auditeur comprenne en effet de quoi il s'agit. Originellement, le taliban historique, j'ai envie de dire, le taliban afghan, purement afghan d'Afghanistan, je dis bien d'Afghanistan, puisque tout Pashtun se considère comme afghan. Bon. À l'origine, le taliban afghan fait un djihad national de reconquête territoriale de son pays, point barre, et n'en a rien à faire du djihad mondial. Alors que les talibans pakistanais, le TTP, Tehrik-e Taliban Pakistan, a accueilli sur son territoire tribal, essentiellement dans l'agence tribale du Waziristan, qui est à la frontière évidemment d'Afghanistan, a accepté des groupes d'Al-Qaïda, qui sont des Tchétchènes, qui sont le mouvement islamique d'Ouzbékistan, qui sont l'East Turkestan Islamic Movement, c'est-à-dire des Ouïghours de la zone ouest de la Chine,
et tant d'autres. Et puis les Tadjiks et des Kazakhs.
Et tant d'autres, voilà. Mm. Il y avait même une douzaine de gens qui venaient des îles Fidji, c'est pour détendre l'atmosphère que je dis ça, allez savoir pourquoi. Bon. Donc, on peut dire que le TTP était intimement lié à Al-Qaïda, qui est extrêmement branché, évidemment, sur le djihad mondial.
Ouais. Voilà. Mm.
Alors, parmi ces talibans pakistanais, il y avait certains qui étaient en effet sur cette ligne-là, et entre autres le chef du TTP, Baitullah Massoud, Hakimullah Massoud ensuite, et puis d'autres comme Wali Rehman et quelques autres qui avaient compris, eux, qu'on ne pouvait pas mettre à feu et à sang le Pakistan, parce que le Pakistan, c'était la base territoriale de reconquête de l'Afghanistan et qu'il fallait garder le jeu calme. Là. Ceux-là, c'était en effet les bons talibans. Alors, la distinction entre les bons et les mauvais talibans, elle est évidemment très néfaste. Parce que si Nawaz Sharif, en 2014, avait réussi à négocier la paix avec les talibans pakistanais, il aurait libéré autant de gens inactifs qui seraient allés porter le fer et le feu en Afghanistan, ce qui veut dire ce qui est l'intérêt du Pakistan était au détriment de l'Afghanistan et vice versa. Et c'est ça que veut dire le président avant, lorsqu'il parle du bon et du mauvais serpent. Maintenant, pourquoi cela a échoué? Eh bien, je vais vous dire. D'abord, Ashraf Ghani, le nouveau président afghan, n'est pas, contrairement à ce qu'on dit toujours, un banquier, sous prétexte qu'il a travaillé à la Banque mondiale. Il a été embauché à la Banque mondiale en tant qu'anthropologue. C'est un anthropologue. Et toute cette subtilité des zones tribales, des jeux de pouvoir, des tribus par rapport aux autres, des allégeances...
Il la maîtrise parfaitement.
Et c'est pour ça qu'il est allé, et ça avait d'ailleurs fait hurler son prédécesseur, Karzai, son prédécesseur, avait hurlé qu'il ait fait ça. La première visite officielle qu'il a faite dès qu'il a été élu président de la République, dès novembre 2014, donc, il avait été en Chine avant, mais c'était pour la conférence de Shanghai, c'est différent. Mais le premier voyage officiel qu'il a fait, ce n'est ni en Chine, ni en Inde, ni ailleurs. Il a fait un pèlerinage à la Mecque, et le premier voyage officiel, ça a été Islamabad. Manière de dire ce qu'il vient de dire, il y a moyen que l'on s'organise. Nous sommes l'un et l'autre les héritiers de la même histoire. Et cette même histoire, c'est cette zone tribale coupée en deux par une frontière, par la ligne du rang ou ce que vous voulez.
Mais il y a un moment, Georges Lefebvre, on s'est dit, ça sera peut-être possible. Parce que les fameuses Tehrik et Taliban Pakistan, c'est-à-dire la principale mouvance chez les talibans pakistanais, qui a été créée en 2007, elle est responsable en réalité de la plupart des attentats du côté du Pakistan. Et notamment, on se souvient de cet attentat terrible en décembre 2014, dans cette école militaire de Peshawar, qui avait fait 141 victimes. Depuis cet attentat-là, Georges Lefebvre, le gouvernement s'est quand même engagé dans une riposte à l'égard de djihadistes sur le territoire pakistanais. On a lancé une vaste offensive. D'abord, quel bilan est-ce qu'on peut dresser de cette campagne anti-taliban pakistanais lancée par Islamabad? Et est-ce que c'était pas là le moment, une fenêtre d'opportunité, justement, pour faire converger cette lutte talibane de part et d'autre?
Oui, d'abord, c'est l'engagement militaire se fait bien avant le massacre épouvantable des jeunes collégiens de Peshawar. Ça se fait dès le mois de juin 2014, lorsque Nawaz Sharif échoue dans les négociations avec les talibans pakistanais. Il échoue, et à ce moment-là, pour bien montrer leur désir de ne pas négocier, les mouvements les plus ultra, parce que il y a en effet les bons et les mauvais talibans, les pires de ce que les Pakistanais appellent les mauvais talibans, ont commencé en février 2014, c'est une image très forte, par égorger, c'est un mode opératoire aussi qui parle, par égorger 23 soldats de l'armée pakistanaise qu'ils détenaient en otage depuis 2 ans. C'est-à-dire, on aurait pu penser que le syndrome de Stockholm aurait marché, quoi. Non, ça n'a pas fonctionné, 23 soldats ont été égorgés. Ça a coupé court aux négociations. Et ensuite, il y a eu plusieurs places militaires, dont la base navale, les bases aériennes, etc., qui ont été attaquées par les talibans. Et c'est à ce moment-là que l'armée a décidé de frapper fort sur le Waziristan. Et ils ont frappé fort. Alors, et sans grand succès, mais quand même. C'est vrai que le Pakistan a une position souvent ambiguë entre les bons et les mauvais talibans. C'est vrai, on pourrait expliquer pourquoi, mais on n'aura peut-être pas le temps. Mais on ne peut pas reprocher au Pakistan de ne pas avoir parfois frappé très durement. En 2004, c'est une vieille histoire, mais 2004, lorsque le général Barnault américain avait décidé l'opération Marteau et Enclume, on demandait au Pakistan de chasser les talibans exogènes, c'est-à-dire les Ouïghours, les Tchétchènes, les Ouzbeks qui étaient dans le Waziristan, l'armée en 2004 a engagé quand même 20 000 hommes. Et au bout de 15 jours, ils en avaient perdu 1 000 000 contre quelques groupes de talibans de Nek Mohammad. Bon. Cette fois-ci, oui, ils ont refait un engagement massif. Mais la mobilité des talibans fait que si vous prenez la vallée de Chakail dans le Waziristan, il n'y a plus d'attentats, il n'y a plus de militants, mais il n'y a plus d'habitants. Et la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on va repeupler cette vallée? Et les talibans qui ont été chassés du Waziristan, ils sont soit, mais très clairement, on sait où ils sont dans le Pakial, Paktika et Rost, de l'autre côté, c'est-à-dire en Afghanistan, et certains d'entre eux sont montés par le nord et se retrouvent dans la vallée de la Kunar, et en Afghanistan, et il se trouve que ce sont les provinces afghanes où il y a le plus de difficultés de terrain à lutter contre les talibans. Donc il y a une mobilité, ils se déplacent d'un bout à l'autre. Vous savez, vous parliez de Daesh tout à l'heure, si Daesh perd du territoire, Daesh n'est qu'un avatar, une excroissance d'Al-Qaïda, et vous aviez raison tout à l'heure de dire Al-Qaïda que l'on croyait au moins médiatiquement mort. L'idéologie wahhabite étant la même, les combattants de Daesh qui seraient en déshérence rejoignent tout simplement Al-Qaïda. Ne jamais oublier que Al-Baghdadi n'est jamais que le disciple de Zarqawi, qui était Al-Qaïda en Irak. Alors, on a les mêmes fonctionnements.
Oui, parce qu'on ne le sait pas toujours, mais il y a une allégeance, en réalité, du chef d'Al-Qaïda envers le chef des talibans. On pourrait penser qu'en réalité, oui, au sommet de la pyramide djihadiste mondiale, on a Al-Qaïda. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que très Al-Qaïda juste a prêté allégeance au chef des talibans, et en l'occurrence, à Mansour.
Alors, ça va très loin, parce que le chef, en effet, d'Al-Qaïda, donc Al-Zawahiri, a prêté allégeance au nouveau chef taliban Akhundzada, et qui plus est, il lui a redonné le titre de commandeur des croyants. Et le TTP pakistanais, avec tous les ultra-radicaux qui sont dans leur rang, ils ont fait aussi allégeance au nouveau taliban afghan de Akhundzada. C'est-à-dire que ce que l'on pouvait distinguer hier, on ne peut plus le distinguer aujourd'hui. Le TTP et les talibans afghans, c'est la même chose.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Culture Monde, cette semaine sur les territoires du djihad, aujourd'hui Afghanistan, Pakistan, le retour des talibans, c'est notre sujet ce matin avec Georges Lefeuvre, anthropologue, spécialiste de cette région, de cette zone frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. On va aller du côté d'Islamabad, parce qu'après son élection en 2014, Ashraf Ghani, donc le président, a fait de nombreux gestes envers le Pakistan. L'intention affichée était de faire collaborer les deux pays sur la lutte contre les talibans au Pakistan. Depuis cette tentative qui s'est soldée, on l'a dit, par un échec, les tensions sont à nouveau accrues entre les deux pays, en particulier depuis les avancées territoriale des talibans. Le 28 septembre 2015, on l'a dit, prise de Kunduz dans le nord-est, première fois depuis la chute du régime taliban qui parviennent à s'emparer d'un grand centre urbain. Le général Murad Ali Murad, le ministre de la Défense afghan, a accusé l'ISI, c'est-à-dire les services de renseignement pakistanais, d'être derrière cette opération. Alors, où en sont ces relations entre les deux pays? Est-ce qu'ils sont parvenus, malgré leurs différends, à entretenir une collaboration sur ce niveau? On va entendre tout de suite Khad Massoud Sefoula, le directeur du centre de recherche sur les zones tribales. Il est à Islamabad, au micro de Samuel Bernard.
Yeah, that is true. See, Ashraf Ghani made a few moves, and a few moves were made by our side as well, you know, especially after launching.
Oui, c'est exact. Vous voyez, Ashraf Ghani a fait plusieurs gestes, et nous avons nous aussi fait des gestes, notamment dans le cadre de l'opération Zarb-e-Azb dans le Waziristan du Nord, à la suite de l'attaque contre l'école pour enfants de militaires à Peshawar. Le Pakistan était fermement décidé à éradiquer les talibans des zones tribales. et à coopérer avec l'Afghanistan pour que les deux pays unissent leurs forces et éliminent le problème taliban des deux côtés de la frontière. Mais malheureusement, il existe depuis des décennies une défiance profonde entre les troupes afghanes et pakistanaises. Donc vous voyez, même si les responsables politiques et les gradés avaient décidé de coopérer pour mettre fin au problème, cette coopération ne s'est pas concrétisée au plan opérationnel, sur le terrain. Et puis c'est vrai qu'il y a eu des cas de talibans afghans présents au Pakistan, auxquels nos agences de renseignement et nos forces de sécurité ont évité de toucher. Et de l'autre côté, on a eu des talibans pakistanais qui s'étaient réfugiés en Afghanistan, particulièrement après l'opération Zarb-e-Azb, et contre lesquels les agences de renseignement et de sécurité afghanes n'ont pris aucune mesure, malgré les demandes du Pakistan. Bref, au fil du temps, cette défiance s'est vraiment enracinée. Les dirigeants des deux côtés ont commencé à s'accuser mutuellement de ne pas en faire assez. Je pense qu'à l'heure actuelle, la coopération entre le Pakistan et l'Afghanistan en matière de sécurité se trouve à son plus bas niveau. Ashraf Ghani a publiquement accusé à plusieurs reprises le Pakistan de soutenir les terroristes sur le territoire afghan. Les Pakistanais, de leur côté, accusent Ashraf Ghani et les autorités afghanes de ne pas faire suffisamment d'efforts dans la lutte contre les talibans pakistanais vivant en Afghanistan et qui, selon les dires du Pakistan, prépareraient depuis l'Afghanistan des attaques sur le territoire pakistanais, avec la complicité des agences de renseignement afghanes, mais aussi des agences de renseignement indiennes.
Entre février et mai 2016, les talibans afghans ont étendu leur zone de contrôle et sont parvenus à récupérer 5% du territoire afghan. On a donc une réelle expansion territoriale des talibans afghans. Quelle est l'influence de cette résurgence des talibans en Afghanistan sur la position des talibans pakistanais, les talibans du TPP, de Tehrik et Taliban par exemple ?
Attention, le TTP n'est plus le TTP d'il y a quelques années. Il s'est fragmenté en plusieurs groupes. Il faut que ce soit bien clair lorsque l'on parle du TTP. Mais vous savez, s'agissant de la progression des talibans afghans en Afghanistan, on peut débattre en long et en large des raisons de cette progression. L'une des raisons, selon moi, c'est peut-être que les forces afghanes créées de toutes pièces et à grand-peine par les organisations internationales au fil des ans ne savent pas faire leur boulot correctement. Et c'est ce qui permet aux talibans de grappiller de plus en plus de territoires afghans. Et puis vous savez, avec les opérations qui ont été montées, un certain nombre de groupes talibans pakistanais, auparavant actifs sur le territoire pakistanais, ont été forcés de franchir la frontière, pourchassés par l'armée pakistanaise et sont entrés en Afghanistan. Et ils sont venus grossir les rangs des talibans afghans, parce qu'ils n'avaient pas le choix. Une fois que vous êtes en territoire afghan, vous devez chercher le soutien soit du gouvernement afghan, soit des talibans afghans. Donc la plupart de ces groupes, et tout particulièrement le groupe Sajna, le groupe Hafizgul Bahadur et d'autres groupes du même acabit, ont passé la frontière et n'ont pas eu d'autre choix que de rejoindre les rangs des talibans afghans. Ce qui a permis à ces derniers de se renforcer et de conquérir davantage de territoires. Et puis, il y a Daesh, qui est un phénomène nouveau en Afghanistan. Du coup, les forces de sécurité afghanes doivent maintenant non seulement lutter contre les talibans, mais aussi contre Daesh. Les ennemis de l'Afghanistan sont donc en train de grandir à l'intérieur du pays. Et c'est selon moi la raison pour laquelle le gouvernement afghan connaît tant de revers.
Et est-ce qu'il existe des groupes talibans en particulier qui collaborent avec l'État islamique ?
Tout à fait. On a entendu dire effectivement que les talibans de Momand, ceux qui se font appeler TTP Jamaat-ul-Ahrar, auraient commencé à coopérer avec Daesh, qui est implanté surtout dans les provinces afghanes de Nangarhar et de Konar. Et même concernant l'attaque de Quetta, vous savez, on a dit que Daesh l'avait revendiquée. Mais selon d'autres informations, elle aurait été revendiquée par Jamaat-ul-Ahrar. Donc oui, il y a des signes d'une éventuelle coopération entre Daesh et Jamaat-ul-Ahrar, ou plutôt TTP Jamaat-ul-Ahrar. Mais pour ce qui est du principal groupe de talibans pakistanais, c'est-à-dire les vestiges du TTP, sous le commandement de Fazlullah et les talibans Messoud du Nord-Est, les talibans du Waziristan du Nord, nous n'avons eu aucune information d'une quelconque coopération avec Daesh pour l'instant.
En 2014, l'Afghanistan a joué la carte pakistanaise pour résoudre le problème taliban. De nombreuses réunions ont eu lieu à un très haut niveau diplomatique et militaire pour la mise en place d'une coordination dans la lutte contre les talibans pakistanais. On avait donc le sentiment qu'Ashraf Ghani allait parvenir à rapprocher les deux pays. Mais finalement, en 2015, lors de l'attaque de Kunduz par les talibans, les officiels afghans ont accusé le ISI, les services de renseignement pakistanais, d'être derrière cette attaque. Quelle est la situation actuelle et un rapprochement est-il encore possible?
Il n'y a pas de plan stratégique en tant que tel. La réponse, ce sont des interventions purement militaires sur le terrain. Donc malgré quelques victoires de temps en temps au cours des deux dernières années, les résultats des opérations ne sont pas au rendez-vous. Les talibans se sont largement déportés vers l'Afghanistan et même s'ils ont perdu beaucoup d'hommes, le leadership reste intact. Sans oublier que les attaques qui ont eu lieu cette année et au cours du dernier trimestre 2015 montrent une progression. Il y a peut-être moins d'attaques, mais elles sont plus meurtrières, plus ciblées. Les lieux, les cibles sont plus spécifiques. Donc malgré quelques victoires, ces opérations sont loin d'avoir eu les résultats escomptés.
Khan Massoud Saifullah, directeur du Centre de recherche sur les zones tribales depuis Islamabad, au micro de Samuel Bernard. Georges Lefeuvre, je voudrais vous entendre à propos de cet homme, qui d'ailleurs, je crois, vous me le disiez en antenne tout à l'heure, est un cousin du commandant Massoud.
Eh bien, il est de la tribu Massoud et il sait très bien. D'abord, je souscris entièrement à ce qu'il vient de dire. Saifullah Massoud, il s'appelle Massoud, il est de la tribu Massoud du Waziristan, donc cousin ou neveu, qu'importe,
de
Baitullah Massoud, qui était le fondateur du TTP. Mais il sait de quoi il parle.
Je veux vous entendre en particulier sur la question de Daesh comme nouvel ennemi, sur, à la fois sur sa stratégie, sur ce que ça pourrait produire dans le paysage. Parce qu'on voit bien que chez Daesh, il y a cette visée de faire des attentats contre les minorités pour précisément les monter les unes contre les autres. On a vu cette stratégie à l'œuvre, notamment lors de l'attentat suicide contre la communauté Hazara le 23 juillet dernier, qui avait fait 80 morts. Donc on voit très bien quelle est la stratégie de Daesh en la matière. Qu'est-ce que ça pourrait donner selon vous, Georges Lefeuvre?
Bien, le terrain était prêt pour Daesh en 2014. Vous vous rappelez, 2014, c'est vraiment le moment de l'échec des négociations de Nawaz Sharif avec les talibans pakistanais. Je vous rappelle l'égorgement des 23 soldats, etc. Peu après, c'est l'école qui est attaquée avec un nombre incroyable de jeunes adolescents qui se font tuer. À ce moment-là, et d'ailleurs Saifullah Massoud vient d'en parler, il a parlé de Jamaat ul-Ahrar, ça veut dire la Société de la Libération. Mais les gens qui ont fait le pire du pire dans les attentats au Pakistan s'appelaient, ce sont les mêmes, mais leur premier nom c'était Aral ul-Hind, ce qui veut dire la libération de l'Inde. Ce sont donc des gens qui sont clairement dans un djihad mondial et qui s'appellent aussi Khorasan Province. Ça c'est Daesh qui donne ce nom de Khorasan Province. Ne pas oublier que dans un des hadiths, dire du prophète, qui est peut-être controversé par des théologiens, mais beaucoup y croient, la libération de l'Inde marquerait la fin des temps, l'Apocalypse, et la libération de l'Inde, c'est-à-dire la conversion de l'Inde, se ferait à partir de la province de Khorasan. La province de Khorasan, c'est tout l'Est iranien, l'Afghanistan et l'Ouest pakistanais, en gros. Donc tous ces mots ont une symbolique, on est sur France Culture, donc qui est importante. Donc, tout est prêt pour que Daesh, en 2014, lorsque al-Baghdadi proclame le califat, les gens de Aral ul-Hind n'ont qu'une seule chose à dire, c'est nous. On devient Daesh, quoi.
Mais peu après. Sauf que ce que vous dites, c'est que leur avenir n'est pas forcément aussi prometteur qu'on se pourrait penser. Pourquoi?
Il est compromis pour deux raisons. La première raison, c'est que al-Baghdadi lui-même n'a pas répondu très positivement à ses allégeances d'Afghans à Daesh, et il a expliqué pourquoi. Dans la revue Dabig, il y a un gars de chez Daesh qui est venu dans le Waziristan, qui est venu dans le Mormand, justement, dont parle Mormand, c'est très bien, il y a beaucoup de chiites, donc ce sont des cibles sectaires pour Daesh, c'est parfait. Et al-Baghdadi, par le truchement d'un de ses envoyés, a énormément critiqué les Afghans qui se réclamaient de Daesh en disant « Oh là là, ils sont trop impliqués dans les affaires tribales qui développent le culte de la personnalité ». Derrière le culte de la personnalité et peut-être plus tard le culte des saints, tout ça c'est hérétique. Donc Daesh n'a pas pris ce qu'on lui proposait tout à fait bien. Et au même moment, et en plus actuellement Daesh perd du terrain en Syrie et en Irak, et je le disais tout à l'heure, l'idéologie wahhabite qui est derrière fait que les gens de Daesh qui seraient en échec viennent réapprovisionner les réseaux Al-Qaïda. Et Al-Qaïda, c'est Al-Zawahiri. Al-Zawahiri a fait allégeance à Akhundzada. Et actuellement, Daesh en Afghanistan et au Pakistan est en train de se vider petit à petit au bénéfice des nouveaux talibans.
Alors justement, vous dites que Daesh se vide petit à petit en Afghanistan. Il y a d'autres endroits, d'autres horizons où précisément il prend son essor. On va aller du côté du Bangladesh, Georges Lefeuvre. pays de 170 millions d'habitants, né de la partition des Indes en 1947, vous parliez de la libération des Indes. Dès le départ, le pays se distingue par son sécularisme, puisque c'est un pays laïque, bien que la population soit à majorité musulmane, quasiment 90% de la population, sauf que depuis 1988, l'islam est devenu religion officielle du pays. Depuis un certain temps, disons 2-3 ans, on a des violences qui se multiplient un peu partout, des violences de la part de groupes islamistes radicaux. Dernière attaque en date, la prise d'otage d'un restaurant de Dhaka début juillet qui a fait plus de 20 morts. Réaction de la première ministre Sheikh Hasina.
Comme vous le savez, la nuit dernière, des terroristes armés ont attaqué un restaurant à Gulshan, à Dhaka. Ils ont pris en otage des civils désarmés et ont commencé à les tuer. En ce mois de Ramadan, alors que les musulmans pieux se préparaient à faire leurs prières, une telle attaque a été une insulte à l'humanité et à la religion. Cette attaque barbare et lâche est sans précédent dans le pays de l'harmonie qu'est le Bangladesh. Chers citoyens, nous sommes engagés à protéger à tout prix la souveraineté et l'indépendance de notre pays, qui a été gagné au prix de la vie de 3 millions de martyrs et le sacrifice de 200 000 héroïnes de guerre. Les mécréants sont peu nombreux, nous devons être unis dans notre lutte contre eux.
Voilà, Sheikh Hasina, Premier ministre bangladaise depuis 2009, membre du parti laïque de centre-gauche, réagissant donc à cette terrible attaque barbare et lâche et qui en appelle à l'unité du pays. Bonjour Jérémy Caudron.
Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur de Bengali et d'histoire du Bengali. Vous êtes doctorant à l'INALCO Paris. Vous travaillez, vous, sur le lien entre religion et État. Vous connaissez particulièrement bien cette question de l'islam politique au Bangladesh. D'ailleurs, vous en revenez tout juste, je crois. Si on entend la Première ministre dénoncer cette barbarie, elle ne dit rien, en revanche, sur ses auteurs. Et pourtant, elle a été revendiquée précisément par Daesh. Alors, pourquoi ce déni, alors même que l'État islamique a officiellement annoncé son implantation en avril dernier, Jérémy Caudron?
Mais en fait, ce qui se passe au Bangladesh, c'est qu'on a une situation assez contradictoire au niveau des revendications, justement, dans le sens où, comme vous le dites, cette action-là, et d'autres aussi depuis 2013, ont été peu à peu revendiquées de plus en plus, disons, ouvertement par Al-Qaïda, puis par l'État islamique, plus tard par Daesh, alors que le gouvernement, non seulement nie toute implication de ces groupes-là, mais en plus veut plutôt mettre l'accent sur des groupes locaux, c'est-à-dire montrer qu'il ne s'agit que d'un phénomène local, d'un phénomène tout à fait limité au pays, et que le Bangladesh ne serait pas, je dirais, un nouveau terrain d'action d'un terrorisme, d'un djihadisme qui serait global.
Mais selon vous, est-ce que c'est le cas? Effectivement, il y a un certain nombre de groupes islamistes radicaux au Bangladesh. On peut penser au plus connu qui est Jamaat Mujahideen Bangladesh. Est-ce que réellement, il reste des groupes parfaitement locaux, sans aucun lien, pas du tout structuré, organisé autour justement des groupes djihadistes internationaux? Ou est-ce qu'au contraire, on sent qu'il y a des liens qui sont en train de se tisser?
Ce qui est difficile, c'est que ce qui est mis en avant, disons, les auteurs qui peuvent être mis en avant, notamment un des coordinateurs de l'action du 1er juillet 2016, qui a été arrêté, ces acteurs sont identifiés comme des leaders, des nouveaux leaders, disons, de Jamaatul Mujahideen Bangladesh, c'est-à-dire d'une organisation déjà assez ancienne au Bangladesh, hein, qui avait fait part d'elle dans les années 2000, plutôt à l'époque affiliée à Al-Qaïda, mais qui était tout de même un phénomène très local, un phénomène de djihad, de djihadisme, et je dirais même un phénomène de milice, en fait, locale, c'est-à-dire un groupe qui se substituait à l'État dans certaines régions en affirmant mettre en place la charia, etc., et qui avait effectivement des méthodes violentes. Donc, pour l'instant, ce qu'on a simplement, c'est des revendications de la part des organisations djihadistes globales, par exemple l'État islamique, qui a revendiqué juste après l'attaque de juillet, du 1er juillet, qui a revendiqué l'action, et de l'autre côté, le gouvernement qui affirme non, mais ces groupes sont totalement coupés, en fait, de ce phénomène global qui touche l'ensemble du monde musulman.
Ça, c'est pour le discours, mais est-ce que dans les actes, dans la riposte, on voit quand même un tournant de la part de l'État qui prend peut-être davantage au sérieux ces risques-là, ces menaces-là, ou est-ce que finalement on est toujours à peu près dans une forme de laxisme vis-à-vis de ces groupes?
Non, tout à fait. On a eu un tournant. Ça s'est révélé surtout au mois de juillet, où avant il y avait un déni total, disons un déni total même de la présence du djihadisme ou de revendications d'action au nom de l'idéologie djihadiste au Bangladesh. Aujourd'hui, donc, le gouvernement reconnaît qu'il y a effectivement des groupes locaux djihadistes au Bangladesh. Ce qui se passe, c'est que il réutilise en fait des noms qui étaient déjà connus, des noms d'organisations qui étaient déjà connus et qui avaient donc agi dans les années 2000, en quelque sorte en les remettant sur le devant de la scène et en disant voilà quels sont les ennemis de l'État, quels sont aujourd'hui ceux qui veulent attaquer l'idéologie de notre nation.
Et alors en l'occurrence, quels sont les ennemis de l'État justement? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de récupération des conflits ethniques qui préexistaient? On voit depuis 2-3 ans un certain nombre de violences se multiplier à l'égard des minorités religieuses, hein, hindouistes, chrétiens, chiites, les Ahmadiyyas aussi, qui est une secte musulmane, mais aussi, plus globalement, disons, les intellectuels, les laïcs, les militants des droits de l'homme. Est-ce que... Il y a des étrangers aussi qui ont été ciblés, il faut le rappeler. On a un ressortissant japonais qui a été tué, on a un prêtre italien qui avait été attaqué par arme à feu. Comment comprendre finalement cette recrudescence de violence? Est-ce qu'il s'agit réellement, disons, de motivations religieuses, voire djihadistes? Comment comprendre tout ça?
Alors, comme ce qui s'est passé dans les années 2000, il y a effectivement une récupération en fait de ces actions-là, une récupération et aussi une accélération des tensions entre d'un côté une idéologie d'État, hein, qui se veut séculariste, qui veut protéger, je dirais, la neutralité de l'État vis-à-vis des religions, et ces groupes-là de, je dirais, d'un islamisme wahhabite, salafiste, mais salafiste violent, salafiste djihadiste, d'un autre côté, qui veulent justement briser complètement l'image de ce Bangladesh, je dirais, de ce Bangladesh qui se montre comme l'exemple d'une harmonie religieuse, d'une tolérance vis-à-vis des minorités. Donc, ce qu'il y a eu, c'est que effectivement, des attaques ont été portées sur principalement les étrangers, sur des groupes minoritaires comme très minoritaires d'ailleurs, comme les chiites au Bangladesh ou les Ahmadis, vous l'avez dit, et effectivement des formes d'islam dit plutôt local, traditionnel, qu'on retrouve partout en Asie du Sud, hein, qui sont plutôt des formes d'islam soufi.
Georges Lefeuvre, réaction à ce cas bangladais. Vous n'êtes pas spécialiste du Bangladesh, mais enfin, c'est des mécaniques quand même qui vous sont proches, que vous connaissez bien.
Oui, bien sûr. Et puis, ne pas oublier que les groupes terroristes ultra-radicaux envisagent de toute façon la destruction des États, pour rebondir sur ce que venait de dire Jérémy. Parce que l'État-nation, pour un djihad international, est une aberration. C'est un alors la laïcité, bien sûr, n'en parlons pas. La démocratie moderne, n'en parlons pas. Mais le simple concept d'État-nation est une aberration, puisque ça enferme la Oumma, la communauté des croyants, est réductible au concept de nation. Je rappelle que quand le Pakistan a été créé sur la théorie des deux nations, la nation musulmane qui se séparait de la nation hindoue, c'est la preuve que le terme nation était lié au caractère religieux, et certains moullahs, et pas des moindres, celui qui a été l'inventeur de l'islam politique en Afghanistan, c'est Mohinuddin, qui a créé le premier parti politique musulman au Pakistan, à l'origine était opposé à un État moderne, un État laïque et surtout un État-nation, c'est-à-dire la Oumma enfermée dans des frontières. Et n'oubliez pas quand même que les groupes terroristes agissent toujours sur les frontières pour casser les États-nations.
Georges Lefeuvre parle de laïcité. Il y a quelques mois, Jérémy Caudron, la Cour suprême du Bangladesh, donc la plus haute instance du pays, a examiné la constitutionnalité du statut de religion officielle de l'islam. Et on voit bien qu'il y a des forces dans le paysage politique qui s'opposent à ce projet séculariste. Le parti d'opposition, le parti nationaliste bangladais, freine, en particulier sous l'influence de partis, disons, plus radicaux encore, et je pense là au Jamaat e Islami Bangladesh. Donc il y a une véritable bataille politique extrêmement rude. Est-ce que vous pensez que les sécularistes ont les moyens d'éviter, disons, une islamisation des institutions? Jérémy Caudron.
Pour l'instant, c'est tout à fait le but qu'ils recherchent. Il est clair que la montée des tensions, je dirais l'accélération de ces, en même temps, de ces actions radicales, ces actions djihadistes, a vraiment s'est développée vraiment à partir de l'arrivée au pouvoir du gouvernement actuel de Sheikh Hasina, donc à partir de 2009, où il y a eu une volonté de réaffirmation de l'identité, je dirais, laïque et nationaliste également du pays, c'est-à-dire de une volonté de revenir vraiment à l'esprit fondateur en fait du pays, de la guerre de libération, qui était absolument une sorte de mise en parenthèse, de mise à l'écart de la religion au profit d'un nationalisme sécularisé. Donc il y a eu une polarisation qui s'est faite à partir de 2009. Il y a eu un mouvement également en 2013, mouvement qui est parti de la jeunesse, qui est parti de la jeunesse étudiante de Dhaka en particulier, le mouvement de Shahabag, qui était aussi une volonté de, je dirais, de stigmatiser et même de condamner, de rechercher et de condamner les leaders islamistes qui avaient, il y a donc 40 ans, qui avaient participé à la guerre d'indépendance, mais qui avaient participé à la guerre d'indépendance du côté pakistanais.
C'est-à-dire qu'au moment de la, guerre d'indépendance, les islamistes, dans laquelle Dhaka avait gagné son autonomie, rappelons-le, vis-à-vis de l'Islamabad, ils s'étaient rangés du côté du Pakistan voisin, un pays évidemment dans lequel on revendique beaucoup plus ce lien entre islam et politique. Georges Lefebvre, réaction, ça sera le mot de la fin.
Eh bien oui, j'assiste bien sur le fait que les mouvements radicaux qui dénient le découpage du monde en États-nations s'installent en effet sur les frontières. Et la question afghane et Pakistan, puisque c'était pour nous deux notre sujet, ne se réglera jamais par des conférences internationales, ne se réglera jamais par ce qui a été l'échec en 2015, des conférences qui réunissent la Chine, les USA, l'Afghanistan et le Pakistan, tant que les deux États, je dis bien voisins, n'auront pas en bilatéral trouvé le modus operandi d'une gestion de la même zone tribale des deux comtés d'une frontière qui est reconnue par le Pakistan, non reconnue par l'Afghanistan, et qui sont en effet la plaie ouverte à toutes les insurrections depuis deux siècles et demi, bien avant la création de la ligne Durand, évidemment.
Et vous y croyez?
Mais je crois tout à fait que c'est possible. C'est exactement ce que voulait faire Ashraf Ghani, qui n'a pas été compris ni par le Pakistan, ni par la communauté internationale, ni même par son prédécesseur Karzai, qui lui a un peu savonné la planche.
Merci beaucoup, Georges Lefebvre, de nous avoir éclairé ce matin.
Merci de votre invitation.
Anthropologue et spécialiste, justement, vous parliez de frontières, de cette zone frontalière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Et merci également à Jérémy Caudron qui était avec nous.
Bonjour à Jérémy de ma part.
Que vous avez déjà croisé.
Voilà.
Il est 11h presque 53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors, le smartphone nous rend-il tous dingues? C'est l'accroche de une du magazine Books cette semaine. Vous allez nous parler de la façon dont nos écrans portables sont en train de modifier notre manière de vivre et de travailler, Brice.
Oui, Florian, et pour commencer, une situation que nous sommes nombreux à avoir vécue. En donnant son bain à un enfant, nous sortons notre smartphone pour lire nos emails, surveiller ce qui se dit sur Twitter et Facebook, googliser un mot, avertir un collègue de travail d'une information utile. Au lieu de jouer avec notre enfant, qui voit bien, lui, que nous ne sommes pas avec lui, tout en étant absent, nous sommes ailleurs. Ici, mais ailleurs en même temps. Il ne capte pas la totalité de notre attention. Au dîner, une jeune fille apostrophe son père. « Papa, arrête de googliser, je veux te parler !» C'est un des cas vécus cité par Sherry Turkle, professeure de psychologie sociale au MIT, dans un article consacré à son travail dans le magazine Books. Sherry Turkle travaille depuis 30 ans sur les effets sur nos comportements des nouvelles technologies. Comme elle le dit dans une interview au Guardian, elle n'est pas technophobe, mais pro-conversation. Dans son précédent livre, « Seuls ensemble », elle relevait les effets provoqués sur le développement des jeunes générations par l'omniprésence dans leur vie des outils connectés. À force d'évoluer dans un univers parallèle, virtuel, ils ont tendance à fuir le réel. Demi-présents dans leur vraie vie, ils forgent leur identité dans le monde des réseaux connectés. Mais est-ce bien leur identité ou bien une identité virtuelle? En tout cas, ils sont accoutumés très jeunes à se mettre en scène, à se créer un personnage. L'actualité offre à la réflexion des cas dramatiques où la création échappe à son auteur. Le personnage créé à destination de quelques-uns peut devenir un objet de moquerie universel. Mardi dernier, Tiziana Cantone, une Italienne de 31 ans, s'est pendue. Elle ne pouvait plus supporter la diffusion virale sur Internet d'une sextape tournée pour faire enrager son boyfriend. Ses ébats intimes, identifiés par son nom et relayés par les réseaux sociaux, auront été visionnés 1 million de fois. Le phénomène du revenge porn contredit deux principes bien difficiles à faire respecter sur nos réseaux sociaux, le respect de la vie privée et le droit à l'oubli. En tant que gouvernement, il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire, a reconnu Matteo Renzi ce week-end. C'est principalement une bataille culturelle. La justice italienne avait condamné Facebook à supprimer les liens dirigeant vers la vidéo en question, mais Google et YouTube pouvaient continuer à la référencer. Tiziana Cantone n'a pas pu le supporter. Elle s'est donnée la mort, morte de honte.
Mais alors, Brice, revenons quand même au dossier de Books. Sherry Turkle publie un nouveau livre dont ce magazine rend compte.
Oui, le dossier de Books ce mois-ci est consacré à l'effet du smartphone sur notre capacité d'attention et de mémorisation. On y revient grâce au nouveau livre publié donc par Sherry Turkle, Reclaiming Conversation, Reconquérir la conversation, sous-titré Le pouvoir de se parler à l'âge numérique. La professeure du MIT poursuit son enquête sur la manière dont le fait d'être constamment connecté affecte nos relations sociales. Les technologies de l'amitié, comme elle les a baptisées, ont été bouleversées par les réseaux tels que Snapchat et Instagram, les adolescents dédaignant de plus en plus Twitter et Facebook, de peur d'y croiser leurs parents. Alors ils ont pris l'habitude, ces adolescents, écrit-il, d'ajouter une couche supplémentaire via leurs écrans aux conversations à plusieurs. C'est un phénomène que l'on observe de plus en plus d'ailleurs dans nos réunions de travail. Deux participants échangent leurs impressions sur l'exposé en cours. Cela crée un malaise chez les autres. Or, cette habitude est en train de s'installer au sein même des familles. Dans l'espoir de dédramatiser des situations conflictuelles avec leurs parents, certains adolescents préfèrent communiquer avec eux par SMS. Ils ont perdu l'habitude de la conversation. Les médias numériques les ont habitués à se soustraire à l'embarras des relations humaines directes. Ils leur procurent des zones de confort où ils ont la possibilité de n'offrir à leurs interlocuteurs qu'une juste dose d'eux-mêmes. D'ailleurs, remarquez-le Florian, ils se servent de moins en moins de leur smartphone pour téléphoner. L'omniprésence des écrans baladeurs est en train de créer un printemps silencieux des relations humaines, selon Sherry Turkle. Judy Weichmann, professeure de sociologie à London School of Economics, remarque de son côté que les usages des technologies échappent souvent à leurs concepteurs. À l'origine, le téléphone cellulaire avait été inventé pour téléphoner, pas pour tapoter des textos ou liker des contenus. Toujours dans le magazine Books, on relève l'étude d'un jeune professeur en sciences de la communication de Boston, Joseph Riegel Jr., sur les contenus laissés par les internautes, tant sur les réseaux sociaux en question que sur des sites d'achat tels qu'Amazon. Dans l'ensemble, les conversations numériques observées par Riegel souffrent des travers identifiés par Turkle, lit-on dans Books, narcissisme, désinhibition et incapacité à s'intéresser aux ressentis de l'autre. Mais il est moins pessimiste que Turkle. On trouve dans ce fond du web, comme il l'appelle, un type de contenu qu'il définit comme social, réactif, court, asynchrone et omniprésent.
Mais c'est absolument dramatique, Brice, que vous nous annoncez la fin de la conversation. Mais qu'est-ce qu'on va devenir, Brice ?
On va faire de la radio.
On va continuer. Merci beaucoup, Brice Couturier. On peut bien sûr retrouver votre chronique chaque jour sur France Culture à 11h53, mais aussi sur le site de France Culture, www.franceculture.fr.